Laisse-moi le temps de raconter. Cette nuit-là, une heure après complie, je suis entré dans les cuisines.
Par où et pour quelle raison?
Par la porte qui regarde le jardin. J'ai une clé que je me suis fait faire depuis longtemps par les forgerons. La porte des cuisines est la seule qui ne soit pas barrée de l'intérieur.
Et les raisons?
Elles ne comptent pas. Tu as dit toi-même que tu ne veux pas m'accuser pour les faiblesses de ma chair.
Il sourit embarrassé.
Mais je ne voudrais pas non plus que tu croies que je passe mes journées dans la fornication. Ce soir-là, je cherchais de la nourriture pour l'offrir à la fille que Salvatore devait faire entrer dans l'enceinte.
Par où?
Oh, l'enceinte des murailles a bien d'autres entrées, à part la porte principale. L'abbé les connaît.
Je les connais, moi.
Mais ce soir-là, la fille ne vint pas.
Je la renvoyais précisément à cause de ce que je découvris et de ce que je vais te raconter.
Voilà pourquoi je tentais de la faire revenir dans la nuit d'hier. Si vous étiez arrivé un peu plus tard, vous m'auriez trouvé moi au lieu de Salvatore. Ce fut lui qui m'avertit qu'il y avait des gens dans l'édifice et moi, je retournais dans ma cellule.
Retournons à la nuit entre dimanche et lundi.
Voilà. Je suis entré dans les cuisines et j'ai vu Venantius par terre, mort.
Dans les cuisines?
Oui, près de l'évier. Il venait peut-être tout juste de descendre du scriptorium.
Aucune trace de lutte?
Aucune. Ou plutôt, à côté du corps. Il y avait une tasse brisée et des traces d'eau par terre.
Comment sais-tu qu'il s'agissait d'eau?
Je ne le sais pas, j'ai pensé que c'était de l'eau. Qu'est-ce que cela pouvait être?
Comme Guillaume me le fit observer après, cette tasse pouvait signifier deux choses différentes. Ou bien, précisément là, dans les cuisines, quelqu'un avait donné à boire à Venantius une potion empoisonnée, ou bien le malheureux avait déjà avalé le poison, mais où et quand? Et il était descendu boire pour calmer une brûlure soudaine, un spasme, une douleur qui lui embrasait les entrailles ou la langue, car à coup sûr la sienne devait être noire comme celle de Béranger. De toute façon, pour le moment, on ne pouvait en savoir davantage. Lorsqu'il eut aperçu le cadavre, Remigio, terrorisé, s'était demandé que faire. Et il avait résolu de ne rien faire du tout. S'il avait demandé secours, il aurait dû admettre avoir rôdé pendant la nuit dans l'édifice. Et cela n'aurait été utile en rien au frère désormais perdu. Partant, il avait résolu de laisser les choses telles quelles en attendant que quelqu'un découvrît le corps au petit matin après l'ouverture des portes. Il avait couru pour arrêter Salvatore qui déjà faisait pénétrer la fille dans l'abbaye, puis, lui et son complice, ils s'en étaient retournés dormir, si l'on pouvait appeler sommeil la veille agitée qu'ils eurent jusqu'à matine. Et à matine, quand les porchers vinrent avertir l'abbé, Remigio croyait que le cadavre avait été découvert là où lui l'avait laissé, et il était demeuré interdit en le revoyant dans la jarre. Qui avait fait disparaître le cadavre des cuisines? Sur ce point-là, Remigio n'avait aucune idée.
Le seul et unique qui peut circuler librement dans tout l'édifice, c'est Malachi, dit Guillaume.
Le scélérier réagit avec la dernière énergie.
Ah non, pas Malachi! En somme, je ne crois pas. En tout cas, ce n'est pas moi qui t'ai dit quelque chose contre Malachi.
Sois tranquille. Quelle que puisse être la dette qui te lie à Malachi, sait-il quelque chose sur toi?
Oui, rougit le scélérier. Et il s'est comporté en homme discret. À ta place, je surveillerais Bense. Il avait d'étranges liens avec Béranger et Venantius. Mais je te jure, je n'ai rien vu d'autre. Si j'apprends quelque chose, je te le dirai.
Pour l'heure, cela peut suffire. Je reviendrai te trouver si j'en ai besoin. Le scélérier, l'évidence soulagé, retourna à ses trafics, rabrouant vertement les villageois qui, entre-temps, avaient déplacé je ne sais trop quel sac de semences. C'est alors que nous rejoignit Séverin. Il tenait à la main les vers de Guillaume, ceux qui lui avaient été dérobés deux nuits auparavant.
« Je les ai trouvés dans la coule de Béranger, dit-il. Je les ai vus sur ton nez l'autre jour dans le scriptorium, ce sont les tiens, n'est-ce pas ?»«
Dieu soit loué !» s'exclama joyeusement Guillaume. « Nous avons résolu deux problèmes. J'ai mes vers, et je sais enfin avec certitude que c'était Béranger l'homme qui nous vola l'autre jour dans le scriptorium. »
Nous avions à peine fini de parler qu'arriva en courant Nicolas de Morimonde, encore plus triomphant que Guillaume. Il tenait dans ses mains une paire de vers terminés, montés sur leur fourche.
« Guillaume » cria-t-il, « j'y suis arrivé tout seul, je les ai finis, je crois qu'ils fonctionnent !»
C'est alors qu'il vit Guillaume avec d'autres vers sur le nez et il resta médusé. Guillaume ne voulut pas l'humilier, il ôta ses vieux vers et essaya les nouveaux.
« Ils sont meilleurs que les autres, dit-il. Cela veut dire que je garderai les vieux en réserve et que je porterai toujours les tiens. »
Puis il se tourna vers moi.
« Atso, maintenant, je me retire dans ma cellule pour lire les parchemins que tu sais. Finalement,
Attends-moi quelque part. Et merci, merci à vous tous, mes très chers frères. » La troisième heure sonnait, et je me rendis dans le chœur pour réciter avec les autres l'hymne, les psaumes, les versets et le kyrie. Les autres priaient pour l'âme du mort Béranger. Moi, je remerciais Dieu de nous avoir fait trouver non pas une, mais deux paires de vers. Grâce à la grande sérénité qui régnait, toutes les turpitudes que j'avais vues et entendues, oubliées, je m'assoupis, me réveillant quand le fils prit fin. Je me rendis compte que cette nuit-là, je n'avais pas dormi, et je fus troublé à la pensée que j'avais en outre utilisé beaucoup de mes forces. C'est alors que, une fois en plein air, ma pensée commença à être hantée par le souvenir de la jeune fille. Je cherchais à me distraire et me mis à circuler à vive allure à travers le plateau. J'éprouvais un sentiment de léger vertige. Je frappais mes mains engourdies l'une contre l'autre, je battais les pieds par terre. J'avais encore sommeil et pourtant, je me sentais bien réveillé, plein de vie. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait.